journal des sciences.
Et l'on ouvre avec ces résultats étonnants parus dans Annals of Oncology cette semaine. Une équipe de chercheurs allemands, français et américains a conçu un algorithme d'intelligence artificielle pour dépister le mélanome. Et cette intelligence artificielle s'est révélée plus performante qu'une équipe de dermatologues. La détection précoce du mélanome est l'un des cancers de la peau les plus agressifs. Et je le rappelle, un enjeu de santé publique, puisque dans les premiers stades, il ressemble à s'y méprendre à un névus, c'est-à-dire à un simple grain de beauté. Et chaque année, 232 000 cas de mélanome malins sont déclarés, 55 000 personnes en meurent. L'année dernière, déjà, une équipe américaine avait mis en valeur la pertinence des systèmes d'intelligence artificielle dits de deep learning dans ce diagnostic et avait publié des travaux intéressants dans la revue Nature. L'équipe internationale qui publie cette semaine va plus loin et démontre que dans le contexte de l'expérience telle qu'ils l'ont menée, eh bien, cette intelligence artificielle est même plus pertinente, plus forte pour diagnostiquer le mélanome malin qu'une équipe de dermatologues. Elle fait mieux avec 95% de mélanome détecté à partir d'une première série de photos contre 87% pour les dermatologues. Explication du professeur Luc Thomas. Il est professeur au CHU de Lyon et chercheur au Centre de recherche sur le cancer, toujours à Lyon. C'est l'un des co-auteurs de cet article.
Il s'agit d'un système d'intelligence artificielle de deep learning avec des technologies de réseaux neuronaux. Et dans une phase d'apprentissage, la machine a ingurgité un très grand nombre d'images de dermoscopie, et c'est important de le noter. Ce ne sont pas des photographies standards, ce sont des photographies dermoscopiques, c'est-à-dire avec la technique optique qui permet de voir les choses en plus gros, sans reflet de la couche cornée de l'épiderme. Et la machine a appris sur un dataset très important. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le grand nombre de collaborateurs internationaux. Une fois la machine ayant appris, c'est passé la phase dite de test. Et là, on a utilisé des nouveaux cas, ceux évidemment qui n'avaient pas été utilisés pour l'apprentissage. Et ces nouveaux cas ont été montrés soit à la machine, soit à un groupe de dermatologistes experts en dermoscopie. Et effectivement, on constate un léger avantage en faveur de la machine. En France, mais également dans beaucoup de pays, le nombre de dermatologistes diminue et il est difficile de faire face à l'ensemble des demandes de soins. Donc on peut penser que l'usage de machines permettrait à d'autres acteurs de la santé, ça peut être évidemment des médecins généralistes, des médecins du travail, d'assurer une partie du dépistage des cancers de la peau avec l'aide de cette machine, mais avec un clinicien derrière tout de même pour en interpréter les résultats et prendre la décision finale, eh bien on pourra probablement éviter des chirurgies inutiles et donc des cicatrices inutiles sur la peau de nos patients et à l'inverse faire des diagnostics plus précoces du mélanome qui reste malgré tout le problème de santé publique le plus important dans la discipline de dermatologie.
Et en bref, la biochimiste Emmanuelle Charpentier et la généticienne Christine Petit figurent parmi les 7 scientifiques récompensés par le prestigieux prix Kevli de l'Académie des sciences et des lettres de Norvège, remis tous les 2 ans. Emmanuelle Charpentier décroche son prix dans la catégorie des nanosciences pour la mise au point des désormais fameux ciseaux moléculaires CRISPR. Et enfin Christine Petit, qui a opéré à l'Institut Pasteur des percées très importantes dans la compréhension des mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition, est récompensée dans la catégorie des neurosciences. En bref, toujours au Pérou, des géoglyphes, ces fameux dessins tracés à flanc de colline, ont été découverts par des drones. Ils représentent un orque, une danseuse et un singe. Ces géoglyphes ont été découverts à Palpa et le plus long est de 70 mètres. Il s'agit donc toujours de ces dessins tracés à même le sol par entassement de pierres qui peuvent être creusées dans la terre. Motif mystérieux qui serait l'œuvre des membres de la civilisation Paracas. Ils ont vraisemblablement plus de 2000 ans. Ils sont donc plus anciens de plusieurs siècles que les célèbres lignes de Nazca. Ligne de Nazca qui avait été découverte en 1926 et évidemment tout cela relance le débat sur leur réalisation. Deuxième sujet cette semaine, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé en fin de semaine dernière le déremboursement de 4 médicaments utilisés pour traiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, on le sait aujourd'hui, ce déremboursement aura lieu, il sera effectif à partir du 1er août et ce après un avis rendu par la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé qui juge ces 4 médicaments, à l'instar de plusieurs neurologues, plus nocifs pour les patients que bénéfiques. Ils n'étaient d'ailleurs par ailleurs remboursés qu'à hauteur de 15%. Tout l'argent qui va être économisé sera intégralement réinvesti réorientée vers l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, soit pour les centres de mémoire, soit pour le secteur médico-social qui les prend en charge, a indiqué la ministre. Et ce, alors que les protestations sont nombreuses de la part de plusieurs institutions. La Fédération des centres de mémoire, la Fédération française de neurologie, la Société française de neurologie, la Société francophone de psychogériatrie. Olivier de la Doucette est le président, lui, de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Il s'est lui aussi prononcé contre cette fin du déremboursement de ces 4 médicaments. Et comme la majorité de ses collègues qui travaillent en étroite proximité avec les malades, dit-il, ces médicaments sont intéressants, même si tout le monde connaît leurs limites.
Les limites de ces molécules sont évidemment au niveau 1 des effets secondaires, 2 du coût, et 3, on va dire, de l'efficacité modérée. Les effets secondaires principaux, c'est essentiellement avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Ils ont tendance à freiner le rythme cardiaque pour certains, et puis également modifier la conduction cardiaque. Donc, il est évident, dès lors qu'on introduit ces médicaments, qu'il faut au préalable faire un bilan cardiovasculaire. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres problèmes au niveau de la confusion, sur le plan digestif, mais comme beaucoup d'autres médicaments. Après, il peut y avoir des problèmes de tolérance. Au début, il n'est pas rare que ces produits induisent des nausées importantes, avec des vomissements. Nous savons ces produits ont une efficacité limitée. Nous savons que il faut les prescrire bon escient, qu'il y a des effets secondaires, il faut les maîtriser. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas d'autres approches thérapeutiques à proposer à nos patients. Et quand vous êtes devant un malade qui a 65 ans et qui commence à avoir des gros troubles cognitifs, voire une personne un peu plus âgée qui n'est pas en mauvaise santé, il est difficile de lui dire « circulez madame, revenez dans 6 mois », car ces produits sont quand même intéressants. Il arrive que chez certains patients, lorsqu'on est amené à arrêter le médicament, on voit dans le mois qui suit un déclin rapide, ce qui prouve après coup l'intérêt de ces molécules. Et le problème en déremboursant ces médicaments, c'est que ceux qui peuvent se payer le produit vont continuer à le prendre et ceux qui seront en difficulté financière vont être plus dans la possibilité de suivre un traitement qui peut avoir un intérêt pour eux.
Et en bref, selon une étude publiée par l'American College of Cardiology menée par des chercheurs du St. Michael's Hospital et l'Université de Toronto du Canada, les suppléments de vitamines et de minéraux les plus couramment consommés n'offrent aucun bénéfice ni non plus aucun effet nocif sur la santé. Les suppléments de vitamine D, de calcium, de vitamine C, qui sont ceux qui sont les plus consommés, n'apportent donc aucun bénéfice en particulier dans les maladies cardiovasculaires. Ça ne veut pas dire que certains suppléments ne sont pas nécessaires pour certaines personnes, rappellent les chercheurs, mais cette prise de compléments en vitamines et en minéraux en tant que mesure préventive ne semble pas fiable. L'étude révèle en revanche que l'acide folique et les vitamines B peuvent, elles, réduire les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. En bref, toujours l'Allemagne devient le premier pays au monde à interdire le diesel, et ce après une décision de justice qui date de février et qui autorise les villes à mettre en place des restrictions en matière de diesel afin d'assainir l'air. Et c'est donc Hambourg qui est devenue hier jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation à certaines voitures diesel. Les plus vieux véhicules ne pourront plus emprunter 2 tronçons de rue de 1600 mètres et de 580 mètres, présentés comme un moyen de tenir les objectifs climatiques de réduction des émissions de CO2. Le diesel reste subventionné néanmoins dans de nombreux pays européens. Le déclin des ventes de moteurs a néanmoins déjà commencé avec, entre 2015 et 2017, une part du diesel dans les ventes de voitures neuves en Allemagne qui est passée de 47% à 38%. Troisième dossier enfin dans ce journal des sciences, c'est une exception cette semaine. Des pesticides interdits depuis plus de 40 ans continuent d'empoisonner les oiseaux de l'Antarctique. Ces polluants organiques persistants qu'on appelle les POP, parmi lesquels on trouve le tristement célèbre DDT, considérés comme les contaminants les plus répandus et les plus nocifs pour l'environnement et la santé humaine, eh bien, tous ces POP, ils ont été interdits dans les années 70 et pourtant, leurs effets nocifs persistent, notamment dans les pôles où ces molécules de chaînes de carbone sont transportées par les courants atmosphériques et restent bien présentes, continuent de s'accumuler. Elles affectent, 40 ans après, certains oiseaux marins comme les squats, indique une étude réalisée en Terre Adélie et publiée cette semaine dans la revue Science of the Total Environment. Olivier Chastel est chercheur au CNRS et au Centre d'études biologiques de Chizé et c'est l'un des co-auteurs de cette étude.
Alors on s'est intéressé aux squats parce que c'est un oiseau marin prédateur, il est en haute chaîne alimentaire. C'est un principe qui est important à retenir. Plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus on va accumuler des contaminants. Donc pour nous, c'était une espèce susceptible d'être fortement contaminée. Il faut savoir que les conditions là-bas sont vraiment très favorables à l'étude parce que les oiseaux font l'objet d'un suivi par bagage. On connaît tous les individus quasiment de la colonie. Ce qu'on montre, c'est que sur le long terme, lorsqu'on fait des prélèvements réguliers sur les mêmes individus et qu'on les suit sur la longueur, on voit que les animaux les plus contaminés par les pesticides organochlorés, en particulier un qui est le Myrex, qui était utilisé comme anti-fourmis aux États-Unis, anti-termite en Afrique du Sud, Australie, est très présent. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les animaux les plus contaminés ont un succès de la reproduction plus faible. Quand on regarde le comportement territorial, c'est une espèce extrêmement territoriale qui défend avec beaucoup de vigueur son territoire, on s'aperçoit qu'en fait, les oiseaux les plus contaminés sont moins hargneux, moins territoriaux, probablement qu'ils sont moins à même de défendre leur nid. C'est important, ça veut dire que malgré des décennies de régulation, d'interdiction, ces molécules sont toujours présentes en Antarctique et présentent toujours une menace pour la faune. C'est aussi important de monitorer la présence de ces polluants sur le long terme, puis aussi parce que on détecte d'autres polluants qui sont émergents, des polluants dits poly et perfluorés. C'est ce qu'on trouve dans les poêles anti-adhésives, dans les emballages fast-food. Petite quantité pour l'instant, mais il est important de surveiller leur présence et leurs effets sur le long terme.